Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro. Bonjour PDPew, bonjour Croissant, Nightcrash est avec nous en régie comme d'habitude. Comment ça va les amis?
Ça va, très bien.
Ça va aussi.
Alors aujourd'hui, comme on vous a dit dans le précédent épisode, on va continuer notre série spéciale sur les Worlds. La dernière fois, on a parlé du jeu et cette fois, on va parler de tout ce qu'il y a eu autour. Donc le shopping, le judging, les bons moments avec la commu, tous les événements qui ont été prévus par LSS autour du jeu. Donc, franchement, il y a pas mal de trucs à raconter. C'était un très bon event. Je sais que tu meurs d'envie de nous montrer ton loot. Donc, si tu veux commencer à nous raconter ton week-end.
C'est le plus important sur un event comme ça. Tout le reste n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu as loot. Non, c'est pas vrai. Mais moi, j'y allais un peu genre... En fait, j'avais une espèce... Enfin, j'avais pas vraiment d'enveloppe, mais j'étais en mode... Je vais y aller, je sais que sur les GP comme ça, on peut faire de bonnes affaires. Et donc j'étais en mode, j'aimerais bien faire de bonnes affaires. Et puis, comme j'ai déjà dit, en fait j'ai besoin de rien parce que j'ai déjà toutes les cartes. Et les cartes que j'ai pas, en fait la flemme de les acheter parce qu'elles sont trop chères. Et donc je suis passé sur les stands des vendeurs. Et en fait j'étais en mode, ça m'intéresse pas trop. En plus, vas-y, les vendeurs sur un grand prix comme ça, en fait ça ressemble à rien. Parce qu'en fait t'as des vitrines avec plein de cartes, et puis tu vois rien, et puis t'as du monde, et puis t'as du bruit, et puis vas-y, il y avait des vendeurs, ils avaient une vitrine, je pensais pas que c'était faisable d'avoir un truc moins attirant. C'était des vendeurs de Hong Kong, je crois, et en fait, au lieu d'avoir des classeurs, des boîtes, des vitrines, ils avaient imprimé les images des cartes, et mis le prix en normal et en RF. Et alors je suis en mode, c'est très efficace. Tu prends zéro risque, tes cartes, il n'y a aucune chance qu'elles se fassent péta, c'est super, tu vois. Mais par contre, moi j'arrive, j'ai la flemme en fait. Je ne vais pas écumer tes feuilles pour savoir si tu as les cartes que je veux. Mais du coup, je fais le tour des magasins, je trouve rien qui m'intéresse, mais je savais qu'il y avait des artistes. J'avais prévu mon pactage en mode je vais prendre les cartes que j'aime bien faites par les artistes. Bon, finalement, je n'ai fait que signer les cartes de mon deck de Dromai, mais j'en avais pris d'autres. Et du coup, je pense que tout l'argent que j'aurais pu dépenser dans une boutique, je l'ai dépensé chez Azur Mizoa. Voilà, c'est vraiment, j'ai tout mis là-bas. Du coup, en fait, je suis très content parce que pour ceux qui ne savent pas qui est Azur Mizoa, c'est l'artiste qui a fait Chromai, Miraging Metamorph. Elle a fait des Figment en Marvel, des versos de Figment. Elle a fait des Dust. Elle a fait des cartes trop jolies, en fait. Du coup, j'ai acheté plein de cartes. Voilà, j'ai fait signer plein de trucs. Du coup, j'ai un Chromai signé, qui est toute beauté, en Marvel. Et puis, trois Miraging Rainbow Foil signés. Puis, j'ai un tapis, parce qu'on est un pimpin jusqu'au bout, avec mon élu préféré. Ça là, voilà, Miraging. Oui, c'est aussi elle qui a fait le Sigil of Solace, parce que Knight nous le goûte dans l'oreillette. C'est elle qui a fait le Sigil de Sagrada, et qui a fait le précédent aussi. Et comme j'ai pas eu de Sigil assez tôt, j'ai pas pu lui faire signer, mais si j'avais pu, j'aurais probablement fait signer. Et en passant, j'ai récupéré ça. Voilà, et ça c'est magnifique. Voilà, je suis très heureux.
Alors, peux-tu décrire pour nos personnes qui écoutent ce que c'est ça?
Oui, c'est vrai. Alors, ça, c'est elle vendait sur place des impressions numérotées recouvertes de feuilles d'or de l'archange of érudition et de l'archange of jugement, qui sont les deux illustrations d'anges qu'elle a fait pour Dusk Till Dawn. Et du coup, moi je suis un pimpin. Et comme j'avais envie de décorer mon chez moi, du coup je les ai pris. Et ils sont très jolis. Et voilà. Et allez voir ce qu'elle fait, parce qu'en plus c'est une artiste française. Elle était là aussi au Battle Arnett à Toulouse. Et son travail est très joli. Voilà, donc gros big up à elle. Et,
je savais pas qu'elle était française.
Et si. Et d'ailleurs c'était très marrant parce que vraiment elle arrive, elle me dit hello, je lui dis bonjour, je veux faire signer des cartes. Elle a fait un français. Voilà.
Donc. French One.
Exactement. Mais du coup, je suis très content. Et j'aime beaucoup son travail. Et du coup, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire d'autre. Il y avait aussi un artiste qui s'appelle, alors c'est un peu dur à prononcer, c'est probablement d'Europe de l'Est, Mateusz Wisniewski, on va dire ça comme ça, qui a fait Vincere Akai. Donc, Bah, Vince Arakai est signé désormais. Ça se voit pas à la caméra, mais je vous jure qu'il est signé. Et surtout, bah, il a fait une carte pas mal. Et ce qui est très amusant, c'est que je vais le voir. Et je lui dis, ouais, je voudrais que tu fasses signer des cartes. Et il me dit, ouais, t'as quoi ? Je lui dis, bah, j'ai Vince Arakai. Et il me dit, et que ça ? Et je lui dis, ouais. Et il me dit, mais t'as pas les tomes aussi ? Et j'ai fait, OMG les tomes. Du coup, bah, il a signé mon brelan de tome foil. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, en plus d'avoir un deck de pimpin, j'ai un deck de pimpin signé. Et ça, c'est pas mal.
Quel plaisir.
Voilà, donc il a griffonné mes cartes. Et puis, dans la même veine, il y avait aussi Auton Nicoliadis et Federico Musetti. Du coup, bah, j'ai fait signer les quelques cartes de Dromai qu'ils ont fait, c'est-à-dire Yendurai, Asvolai, Tomeltai et Storm of Sendikai. Et voilà. Donc, j'ai pas fait la même signature que Croissant. Parce que Croissant, quand il avait fait signer son Asvolai à Lille, puisque Federico était déjà là à Lille, il lui avait demandé d'écrire 0 pour 7 là dessus.
0 pour 6, 0 pour 6.
0 pour 6 ? Bon, j'ai pas fait écrire 0 pour 6, mais du coup j'ai une signature. Et puis, autre loot que je suis très content d'avoir récupéré. Évidemment, sur un GP comme ça, il y a plein de gens qui ne sont pas des vendeurs, mais qui sont juste des gens qui ont voyagé à travers le monde avec des cartes d'ailleurs. Et donc, il y avait un vendeur américain qui avait des promos de la Team Covenant. Alors, pour ceux qui ne sont pas trop dans les bails de la collection, les promos Team Covenant, ce sont des promos exclusives avec des illustrations alternatives de cartes qui sont distribuées pour les bundles qu'ils font dans leur magasin. Donc, nous, Européens, ça nous fait beaucoup chier parce qu'on est en mode « mais on les veut ces promos, mais on ne peut pas les avoir, c'est chiant ». Du coup, bah, quand des Américains débarquent en Europe, souvent, ils en ramènent plein et du coup, ça se vend très bien. Donc, ils ont fait Send Cover, ils ont fait Blazed Long, ils ont fait Peace of Mind et plein d'autres cartes, en fait, sur plein d'éditions. Et du coup, je ne savais absolument pas qu'existait cette carte, mais il existe une version de Iris of Reality. Alors, on voit la cam sans le reflet. Qui est délicieuse, elle est rose avec de belles couleurs et elle est chamarrée et voilà. Oh, du coup, quand j'ai appris que le Boug en avait un exemplaire, j'ai missionné mon meilleur Moms qui est parti récupérer des trucs pour lui et m'en récupérer un exemplaire. Et, voilà. Et puis bon, j'ai récupéré un sigil aussi, mais bon, finalement le sigil n'a aucune valeur parce que tout le monde en a un, donc on a fait. C'est mon loot du week-end. Et puis ouais. Puis, l'autre truc que j'ai regardé, mais que je n'ai pas acheté du coup, c'était beaucoup de magasins avaient un exemplaire de Tales of Adventure, qui est la promo du Pro Tour Baltimore, qui a été distribué, qui est la spécialisation de Yorick. Donc vraiment, genre, en termes de cartes pas jouables, je pense qu'on est vraiment très, très pas jouable, parce que c'est pour un format dans lequel personne ne joue, avec un héros qui est banni dans ce format. Et en plus, c'est une spécialisation qui a été distribuée littéralement à l'autre bout de la planète, ou presque. Donc en Europe, c'est chiant à trouver. Et les magasins en avaient, mais quand j'ai vu le prix, j'ai fait « bah vous allez les garder, du coup ». Pareil, il y avait un magasin avec des Go Bananas, et je lui dis « How much les Go Bananas ?» Il me dit « 340 livres sterling, donc à peu près 360 ». J'ai fait « bah garde-les tes Go Bananas, chacal ». Voilà. Je vais pas regarder le prix sur MKM. Bah oui, parce que, en fait, une partie de mon voyage, et notamment une raison pour laquelle je n'ai pas acheté de cartes, c'est parce que je pouvais pas vérifier les prix sur MKM. Parce que, comme j'ai déjà dit, mon téléphone avait décidé de ne pas avoir internet. Donc, j'étais à l'aveugle. Et c'est pour ça que quand je vais voir des artistes, bah en fait, c'est marqué. Il y a un petit carton avec marqué Shadow Signature 5€. Je suis en mode nice, je connais le prix, c'est cool. Mais quand je veux acheter des cartes à un shop, je préfère vérifier sur MKM. Est-ce que le Boug, il a fumé du crack ? Est-ce qu'il y a moyen que je négocie un peu et tout ? Et du coup, comme je ne pouvais pas, j'étais en mode En plus, ça impliquait de ne pas pouvoir payer par PayPal. Donc c'était encore plus Voilà. Et, c'est vrai que j'ai oublié, j'ai aussi réussi à choper le gars qui fait les Metal Fab Tokens. Alors pour ceux qui sont des animaux comme moi, fanats de l'accessoire complètement inutile et pas nécessaire, Metal Fab Tokens, c'est vraiment la max. C'est-à-dire que tu pourrais avoir des dés, tu pourrais avoir des bouts de plastique ou des trucs pour matérialiser les éléments en jeu. Mais ce mec fabrique des trucs en métal. Donc des trucs lourds, bien épais là, émaillés, qui sont de toute beauté. Et du coup, il a entre autres un truc, c'est il fait des jetons H d'un côté, H-Wing de l'autre. Et moi, je voulais absolument en acheter un, mais sur leur site, c'était un peu trop cher et tout. Et donc, il en avait sur place. Je lui ai envoyé un message en mode, est-ce que tu seras là? Et il m'avait dit, oui, oui, je serai là. Donc, je suis très content qu'il soit effectivement là. Et du coup, j'en ai pris. Et ce qui est très marrant, c'est que j'arrive le premier jour, je n'ai pas les jetons. J'achète 4 jetons. Et le lendemain, je suis en mode, putain, mais mon sac est lourd quand même. Parce que bah là, je ne les ai pas sur moi parce qu'ils sont ailleurs dans mon appart. Mais en fait, c'est lourd. C'est vraiment lourd, sa mère, comme objet.
Je confirme. Genre,
et moi qui ai pris 4 H-Wing, je suis en mode, bah mon sac est bien plus lourd désormais. Super. Voilà.
Ah, et petite anecdote sur ce vendeur-là, je la partage pour Knight parce qu'il n'est pas là. Quand on l'a vu, Knight est arrivé en mode, est-ce que vous avez des Dishonored? Et genre, le gars l'a regardé et fait, bah en fait, non, parce qu'on avait prévu nos nombres par rapport aux nombres qu'on vendait aux US, et vous êtes bizarre en Europe, vous la jouez tous, alors qu'en US, personne la joue, du coup, on s'est fait dévaliser en 10 minutes. Donc, en fait, du coup, ouais, pas de Dishonored pour Knight.
En fait, tu vois, aux États-Unis, c'est des méta-slaves, donc en fait, si Katsu est pas méta, personne joue Katsu, alors qu'en Europe, on est fancy, tu vois. C'est-à-dire qu'on a un monocle, une moustache, et on est en mode « je vais jouer Katsu au lieu de jouer Fai
». Je pense que c'est ça, ouais.
Katsu top 8. Je dirais juste Katsu top 8. Voilà.
Voilà. Et puis vrai. Sinon, je pense qu'on aura l'occasion de reparler de la commu, mais il y a un truc qu'on a déjà dit à l'épisode précédent, mais c'est vrai que débarquer et avoir quelqu'un qu'on n'a jamais vu, ni d'Ève ni d'Adam, qui vient me voir et qui me dit « Bonjour PDPU, je te connais mais tu me connais pas. » Bah moi qui ai un peu de mal avec c'est-à-dire que les autres êtres humains, la sociabilité, tout ça, je suis en mode « bizarre ton affaire ». Mais en vrai…
Étrange.
En vrai, ça fait plaisir que les gens soient venus nous voir. On m'a offert un shitty Christmas present et j'étais très heureux d'ailleurs. Comme ça a refait ma journée là. Et voilà, et c'est cool parce que ça fait encore plus de gens avec qui discuter entre les rondes, des gens qui nous croisent, et c'est trop cool parce que en fait ça, je me suis rendu compte avec cet événement, avec justement tous ces moments que j'ai passé à aller voir des artistes, à discuter avec d'autres gens, à faire ma vie un peu ailleurs et tout, que bah en fait le côté communauté du jeu était très agréable et très bien. Et c'est un truc que je n'avais pas du tout à Magic, parce que bah Magic, c'est un jeu de ses morts où en fait, les gens ne se parlent pas, parce qu'en fait, le jeu a trop de place. Et en fait, c'est dur de créer des liens, surtout pour moi, parce que j'ai un peu de mal avec ça, de créer des liens en dehors du jeu. Et je me rends compte que comme j'y arrive à Flesh and Blood, et que j'ai créé des liens en dehors du jeu, bah, du coup, je suis content. Donc voilà. Et ça m'a fait me rendre compte que c'est pas mal. Et du coup, j'ai regardé le prix des Airbnb pour Amsterdam et je suis en train de mourir parce que c'est hors de prix. Voilà.
Ah ouais, non, mais les Pays-Bas, c'est super cher. Hein. Les Pays-Bas, c'est super cher. Je vais regarder aussi. Et... ouais, un peu déprimant.
Entre les arnaques et le prix des Airbnb, je suis en mode « Oh non, c'est chiant. Au secours. »
Mais on va quand même y aller.
Ah bah, mais en fait, alors, on va y aller parce que j'ai regardé le prix. On diverge complètement, mais c'est pas très grave. J'ai regardé le prix pour y aller dans les divers moyens de transport, qui exclut l'avion, parce que du coup, je ne prendrai pas l'avion. Bah en fait, bus de nuit, minuit 15, Paris-Bercy, Amsterdam, t'arrives à 7h, 60€ pour 2 personnes. Donc ça veut dire que c'est 30€ par personne. Je suis en mode, en vrai, 30€ pour une nuit dans un bus, ça part. Voilà. Et puis le train est à 350, donc bah, je ne vais pas prendre le train. Voilà. Mais donc il est fort probable qu'on me voit à Amsterdam et que j'aille voir des artistes et chill comme jamais. En plus, je vais probablement avoir la chance d'y aller avec ma femme. Donc,
ah, trop super. Bien.
Voilà.
J'essaie toujours de convaincre ma copine de venir avec moi à des events, mais pour le moment, ça ne marche que de façon très relative.
Et moi, je lui dis, j'irai 2 jours à l'event, mais on a 3 autres jours où on fait d'autres trucs. Et du coup, elle a fait « D'accord.
» C'est un événement. C'est ce que je tente aussi, mais moi, ça marche toujours pas. Donc, je retenterai.
En fait, c'est ce qu'on voulait faire à Barcelone. Mais je m'y suis pris un peu tard. Et on n'a pas réussi à se coordonner. Donc, c'était compliqué. Mais là, comme, vas-y, juillet de l'année prochaine, c'est quand même bien loin. On peut s'organiser. Voilà, j'ai fini mon laïus. Maintenant, je ne ferai que rebondir sur ce que vous racontez.
Vas-y.
Allez.
J'y vais comme ça, croissant. On garde la partie la plus développée.
Vas-y. Comme ça, si vous n'avez pas... Non, mais si vous n'avez pas envie de m'entendre comme ça, pour les gens qui nous écoutent, bah, genre, vous aurez PDPU Otal. Et une fois qu'Otal a fini de parler, vous pouvez juste genre quitter le podcast.
On va chapitrer la vidéo en deux parties.
Nous, tu vois, on aura une vue et tout.
Croissant, c'est pas... Après croissant.
C'est pas...
On aura les trucs intéressants, croissant.
Ouais. Alors, en vrai, rappelons quand même que croissant a judge les Worlds et le top 8.
C'est dans la tête.
Et le top 8. Donc, niveau truc intéressant, genre, on charrie pour les gens qui n'ont pas entendu l'épisode de la dernière fois et qui ne savent pas, genre. Ne croyez pas qu'il va dire des trucs inintéressants. Je pense qu'il a fait des trucs les plus intéressants du...
Il a dit lui-même, en vrai, l'arbitrage du top 8. Bon, j'ai croisé les bras à côté de la table. Mais les joueurs, c'était tellement des animaux à savoir jouer au jeu que je n'ai pas vraiment eu de travail. Ce que je comprends tout à fait. C'est plutôt rassurant, d'ailleurs.
Oui, je suis assez rassuré, en effet, de se dire « Tu veux dire que des joueurs capables d'être au top 8 connaissent les règles ?»
Bon, après, il y a un
contrat,
ça
fait bien. Voilà. Mais ouais,
tu diras ça. Ouais.
Bah, du coup, niveau... moi, j'ai fait un peu de shopping aussi. Déjà, les fameux Metal Fab Tokens. Parce qu'à la base, je cherchais juste des tokens, moi, pour jouer pour le week-end, parce que j'aime pas les dés. En fait, je trouve que les dés, il y a trop de possibilités. Genre, tu sais, tu fasses un faux mouvement, il roule, un machin. Je cherchais des trucs genre bien plats pour se poser sur les cartes et qui bougent pas. Et au début, j'avais vu ceux en impression 3D qui étaient vendus à un des vendeurs. Et le mec dit « Ah bah en fait, on en avait juste un tout petit stock et tout. » Je fais « Ok, tant pis, je chill. » Je vais tranquillement voir les autres boutiques, qui étaient vachement sympas. Il y avait un classeur, le même gars qui vendait les Metal Fab Tokens, avait un classeur de cartes, genre plein de cartes, 1 euro la carte dans le classeur, avec des cartes qui valaient moins d'un euro, mais des cartes qui valaient vachement plus qu'un euro. Donc c'était très original comme méthode pour attirer les gens, je pense. Et genre, pendant qu'on regardait ce classeur, tout d'un coup, genre mon regard, tu vois, il y a le reflet métallique, tu vois, genre qui te se tourne, il fait « Que vois-je ? Des tokens !» Donc du coup, moi, j'y suis allé, ça faisait super longtemps que j'en voulais. Je me suis pris le token de pitch, évidemment. Oui. Que j'adore, le token de pitch est trop bien, les tokens d'équipement, le -2/-1 pour les équipements qui s'abîment là, et le fameux token que je trouve le token, soyons honnêtes, le plus kinky de la galaxie, qui est quand même Dominate Go Again.
C'est Mohamed, il était en mode, en vrai je trouve ça dommage qu'il ait pas saisi l'occasion de faire un token qui mette les deux sur le même objet, parce qu'en fait Starvo donne Go Again et Dominate. Et
oui, coup, bah, chiant, dimanche, j'étais en mode merde, attends, j'ai qu'un seul token. Je fais comment?
Tu le mets sur la tranche debout comme ça, là, sur la carte.
C'est ça, à la verticale, ça ne tient pas très bien, mais tu essayes. Mais c'est vrai que pour le coup, le dimanche, je me suis rendu compte de ça. J'étais genre ah oui, j'avais pas du tout pensé à cette problématique. Voilà, donc j'ai fait mon petit shopping et que vois-je sous les tokens? Enfin, à côté des tokens, je vois un tapis Starvo. Genre tapis que je voulais depuis des années, mais en vrai j'étais en mode un peu cher, genre je sais qu'il est pas vénère cher en vrai, genre
il est à combien?
Je sais pas combien il était le tapis Starvo à l'époque, je sais pas combien il est sur Card Market et tout, et je demande au gars, du coup je fais excusez-moi noble camarade, votre tapis Starvo là il coûte combien? Mec, il va demander, il fait 20 euros.
Ouais, pour moi c'est le prix.
Bonjour monsieur, je suis parti avec. Non, il était plus cher que ça sur CM à ce moment là Genre,
t'es sûr?
Ouais, au moment où j'ai regardé, en tout cas, il était plus cher. Après,
t'es sûr? Après, vas-y, bon, t'as peut-être, je sais pas quand t'as regardé, hein, tu vois, mais moi, là, je vois un vendeur pro qui en vend un à 10 balles, je suis en mode, bon.
Ah ouais? Bon, bah voilà. Ah
ouais. Tous les cas... bon, Pidipiu, tu as déjà passé, tu as déjà dit que t'étais content de tous tes achats, laisse autant être content de ses achats, même s'il s'est fait entuber.
Je suis content quand même, je l'ai eu pour le Battle Hardened, j'ai pas eu de frais de port, il n'y a pas eu de galère, il n'y a pas eu de machin, je suis
c'est
content.
Vrai. Non, ça c'est un gros plus.
Ouais, peu importe, je me suis acheté... Ouais. J'en ai aussi profité pour acheter quelques cartes qui me manquaient pour mon deck depuis fort longtemps, genre le bon vieux Starstruck, hein, parce que quand tu joues Bravo et que t'as pas Starstruck, ta vie est triste, soyons honnêtes. Et voilà, moi c'est à peu près... Niveau shopping, c'est à peu près tout ce que j'ai fait parce que je n'avais pas non plus beaucoup d'envie de shopping. Donc, des petites cartes comme ça pour compléter le deck, surtout les tokens qui m'ont satisfait. Mais j'ai participé à un événement du coup qui avait été mis en place par LSS qui était l'événement avec le professeur. Pour ceux, je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'était passé, mais en fait, le professeur de Tolarian Community College, donc une chaîne YouTube américaine qui fait beaucoup de Magic, est aussi du fab pour le coup, et qui notamment a eu le partenariat au moment de Round the Table, donc le professeur Teklovosen de la boîte Round the Table, concrètement. Bah, en fait, il était présent. Et bah déjà, la première fois que j'ai vu, parce que j'avais pas capté qu'il était là, enfin, j'avais pas trop capté que c'était lui au début, j'étais trop heureux. Parce que c'était pendant le scellé, c'était pendant le Team Sealed, et t'as Knight qui le voit pas, enfin, je le vois passer, et je fais oh, c'est le professeur! Et t'as Knight qui regarde, fait bah, t'as ton. Ah oui. Il fait bah, t'as ton round de table sur toi, non? Bah oui. Qu'est-ce que t'attends pour aller faire signer? Je fais.
C'est vrai.
Donc du coup je suis allé faire signer parce que j'étais trop heureux d'avoir, d'avoir le professeur qui signe mon truc, donc je lui ai fait signer mon petit déclos. Et après du coup il y avait une sorte de chasse au trésor où en fait du coup on vous donnait une petite carte sur laquelle il y avait des indices et il fallait traverser la salle du tournoi un peu partout pour aller trouver les indices. En fait c'était lié aux artworks des cartes, il y avait des QR codes à certains endroits, compter des trucs etc, ça donnait des trucs vachement intéressants qui vous donnaient des codes. Ça vous permettait de débloquer un mot de passe. Vous débloquiez le mot de passe, on vous donnait des boosters. Et dans les boosters, il fallait choisir en gros un héros et un... C'était le backup protocole, je crois. Ah oui, c'était le backup protocole et la couleur selon le héros que vous avez choisi. Et allez vous prendre en photo avec d'autres gens. Et une fois que vous aviez fait ça, eh bien, vous pouviez attendre le professeur à une certaine heure pour qu'il vous donne sa carte en cold foil. Donc déjà, très stylé, soyons honnêtes. La carte de foil et possibilité de reprendre une petite photo avec lui et de la faire signer. Alors perso c'est quelqu'un que j'ai beaucoup suivi déjà il y a longtemps au début quand je m'intéressais à Magic notamment et autres, mais aussi même je trouve qu'il fait du super bon contenu sur Fab. J'aime beaucoup tous ses guides d'achat, les choses comme ça. Je trouve qu'il a vraiment du contenu que je trouve très très cool, donc ça m'a fait super plaisir de le voir en fait et de le rencontrer en vrai. Il était très sympa avec les gens, super approchable, super friendly. Et quand je dis super sympa avec les gens, comme je disais, moi, la première fois que je l'ai vu, c'était pas pendant un event. C'était pas pendant l'event officiel. Il était à côté en train de chill et il a été super, super sympa avec moi. Donc, je trouve ça bien, ce genre de personnalité qui arrive quand même à rester approchable par les fans et qui sait être là. Je sais qu'on va se dire, il était probablement un peu payé pour ça. Hein, c'est factuel. Mais je trouve ça cool quand même qu'il ait ce côté de discussion et autres avec les gens. Donc,
en fait, on sent avec le Boog que quand même il soit payé, genre il aime vraiment ça du fond de son cœur.
C'est
quoi.
Ça en fait, ouais. Je trouve que c'est vraiment ça. C'est, tu sens qu'il est passionné par ce qu'il fait. Il aime la commu, il aime les gens, il a l'air d'aimer la commu Fab aussi, hein, pas juste la commu des jeux de cartes en général. Et j'ai trouvé ça trop cool de pouvoir l'approcher comme ça, de pouvoir discuter un peu avec lui, d'échanger. C'était vraiment pour moi c'était mon gros souvenir parce que genre moi j'ai pas gardé les Sagrada par exemple, mais parce que justement j'ai dit en fait ma carte signée, et à la base c'était que la Rainbow Foil nulle, hein, genre celle de l'UPF, celle de Rantabo, j'ai dit ça sera mon souvenir du week-end parce que c'était vraiment pour moi le gros truc du week-end. Ah et si, et j'ai aussi, ça c'est un détail que je fais oublier, mais j'ai passé un peu de temps aussi à discuter avec les cosplayers et à me prendre en photo avec des cosplayers, notamment un cosplayer de Bravo. Je venais de finir un match en CC, je commence à ranger mon deck, et je vois le Bravo à côté, je fais hop, 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 hop. Je suis allé voir, je lui demande la photo, il y avait un cosplayer de Caillou à côté, je fais let's go. Et du coup j'ai la photo avec le héros Bravo, ma carte, et Bravo à côté de moi et Caillou. Et après le Bravo m'a regardé et a fait tu as la carte, tu mérites Anotos. Et il m'a donné Anotos et j'ai eu ma photo avec Anotos, du coup je suis encore plus heureux. Il m'en faut pas beaucoup, je sais, hein, mais...
Moi, j'ai essayé de regarder le concours de cosplay, parce qu'il y a, à chaque gros event comme ça, il y a un concours de cosplay. Et je me suis rendu compte que ça m'intéressait pas. J'admire le travail des cosplayers, et je trouve ça exceptionnel, la dévotion qu'ont ces personnes pour donner vie à des personnages du jeu. Mais je suis en mode, c'est cool de les croiser, mais voilà. C'est super, continuez, mais j'irai pas voir, mais continuez, c'est génial.
Bon, bah après, mais chacun son truc.
Cool, hein. Je trouve ça cool parce qu'en fait, le truc de cosplay, le fait qu'il y ait le professeur à certaines heures, le fait que je crois qu'aucun de nous n'a eu l'occasion d'aller voir James White, mais James White était là. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que James White, il était là tous les jours de 10h à 12h, je crois, un truc comme ça. Et en fonction de la journée, il distribuait une carte promotionnelle différente qu'il a signée. Donc, le premier jour, c'était un polo d'une certaine couleur. Le second, c'était un polo d'une autre couleur. C'est la vanne, parce qu'en fait, il y a toujours un polo ouvert avec le col relevé. Voilà. Et en fait, un Blossom of Spring, genre la carte, elle n'a rien de nouveau, mais je trouvais ça cool parce qu'il s'était déjà déplacé pour les premiers Worlds. En fait, de manière générale, je trouve ça super que le créateur du jeu se déplace pour des gros événements comme ça. Après, c'est évidemment dans son intérêt parce qu'il est l'image, il est la marque, il fait des annonces. Bien sûr que ça attire des gens, ça attire de la discussion, machin et tout. Mais cette proximité qu'il a toujours et qu'en fait, de manière générale, les créateurs et les gens qui font le jeu ont avec les joueurs, bah, je trouve qu'elle est agréable. Et genre, le fait que le professeur soit là pour discuter avec les gens, le fait que James soit là, le fait qu'il y ait bah, des arbitres, comme on croissant, on parlera probablement, tous ces trucs-là, ça démystifie, en fait, enfin, ça enlève l'aura de... Comment dire
Les créateurs sont une grosse boîte distante dans leur four d'ivoire. Non, non, ils font partie de la communauté, ils sont actifs dans la communauté. C'est
ça. Et quand tu compares cette implication qu'a du coup les books de chez LSS avec les autres TCG installés, bah en fait, il n'y a que chez LSS, il n'y a que chez Flesh and Blood que tu as cette proximité palpable entre un joueur qui se dévoue à aller à un événement et les créateurs qui sont là aussi pour être avec les joueurs.
Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment cool. Moi, c'est vrai que pour le coup, j'en ai pas parlé plus dans mon passage, mais j'ai passé aussi le fait la facilité avec laquelle j'ai vu des gens, genre, je pense à Flake notamment, avec qui j'ai pu discuter pendant quasiment 5-10 minutes, même des gens de la commune internationale. Du coup, parce qu'autant, oui, on a discuté avec Romain, on a discuté avec d'autres gens qu'on connaît de la commune française, c'était trop cool. Mais c'est des gens qu'on connaît, donc je vais pas dire « surprenant, les gens qu'on connaît ont discuté avec nous ». Même si c'était très cool, surtout pour les gens qui bossaient, de prendre le temps de discuter, etc. Et pour les gens, comme on disait, qu'on ne connaît pas, qui sont venus nous voir, ça c'était incroyable. Mais la facilité d'approche qu'il y a eu des créateurs purement LSS... J'ai vraiment trouvé ça ouf, en fait. Comme tu dis, j'ai pas vu ça dans d'autres jeux, en fait. C'est trop bien. Enfin, je trouve que c'est probablement une des plus grosses forces de Fab, à mon avis, cet aspect, justement, facile d'accès, proximité, réalisme. La communauté existe, elle est importante, on le sait. Ça fait trop du bien, en fait, d'avoir ce genre de, d'avoir ce genre de créateur qui s'implique et qui intervient... qui intervient dans le jeu à ce niveau-là. Et puis pareil, genre, j'ai eu quelques interactions avec du staff de l'organisation en tant que telle, pas forcément genre des arbitres, mais je pense notamment la personne qui faisait le crowd control à l'endroit où il y avait le professeur, parce qu'il y avait une très grande queue, parce que c'était 300 personnes pour voir le professeur. Et genre, je les ai tous trouvés genre non seulement super pro, mais aussi pareil, super accessibles, super friendly, super amicaux. Et ça fait du bien en fait. Ça fait du bien d'arriver dans un endroit où tu te dis les gens qui bossent là sont cool, la commu est cool, on passe un bon moment, tout le monde est accessible, tout le monde est aimable. C'est trop bien. Et après, le reste du temps, moi j'ai passé pas mal de temps à juste me balader entre les tables, discuter avec des gens que je connaissais, discuter avec des gens que je ne connaissais pas. La fameuse phrase du « tu ne me connais pas, mais je te connais » qui a été genre... qui m'a trop fait plaisir à entendre, parce qu'en fait je suis un peu comme toi Pipi, genre j'ai beaucoup de mal à genre rencontrer, enfin genre aller vers des nouveaux gens, moi j'ai un peu de mal, et du coup là d'avoir ça, au final c'est pas moi qui allais vers les nouveaux gens d'une certaine façon, c'est eux qui venaient me voir, mais c'était trop bien en fait, genre c'était trop cool, ça, non seulement ça montre que la communauté existe, mais en plus ça montre que ce qu'on fait a un impact sur des gens. Parce que les gens qui viennent me voir et qui me disent « Ah ouais, j'écoute ce que vous faites tous les lundis dans ma voiture, tous les lundis dans ma voiture, vous êtes le podcast que j'écoute pour me motiver pour ma semaine » ou des trucs comme ça, c'est juste trop bien. Genre, ça m'a mis le sourire. Et en effet, ça fait que toutes les rondes où, genre, par exemple, moi je finissais plus tôt et mes potes étaient en train de faire un event ou étaient déjà rentrés à la Airbnb, etc., bah, entre la commu FR qu'on connaissait déjà et ces gens en plus qui, du coup, discutaient avec nous, bah, j'avais toujours des gens, il y avait toujours des gens avec qui discuter, des gens à rencontrer, et j'ai trouvé ça trop bien.
C'est vrai. Bah en fait, je me rappelle, j'avais fait un tournoi en Belgique avant, parce que j'étais en vacances et il y avait un tournoi là-bas. Et un truc qui m'avait marqué, c'est à quel point je m'étais senti seul pendant le tournoi parce que je connaissais personne. Parce que bah, du coup, j'avais parlé en anglais pendant tout le tournoi et que bah, en fait, la communauté belge, je ne la connaissais pas. Et en fait, c'est normal. Et en fait, ça m'avait marqué parce que j'étais en mode, mais en fait, je veux pas jouer aux cartes pour faire ça, en fait. Je veux voir des gens, je veux parler avec des gens et tout et tout. Et voilà. Mais je pense qu'on va laisser Croissant parler parce que ça fait trois fois qu'il baille, genre il est à deux doigts de s'endormir l'autre là.
Ouais, mais c'est bien. Là maintenant, nous on peut s'endormir tranquille, on sait que de toute façon il tient pendant une heure et demie là, donc let's go.
Je suis pas sûr. Je pense que j'ai mangé un moment. En vrai, non, mais je pense que j'ai beaucoup moins de choses à dire que ce que vous vous représentez. Hein, d'autres jokes,
On te fait confiance, Croissant.
De toute façon, non, mais c'est vrai qu'il y a probablement des choses liées à l'arbitrage dont tu pourras pas parler.
Évidemment.
Mais il y a quand même des trucs à raconter.
Oui, je suis sûr. Oui.
Ouais.
Du coup, moi, ouais, podcast si vous avez pas envie de m'entendre parler pendant 30 minutes.
Mais arrête d'être aussi genre négatif envers toi. Les gens sont là pour
nous. C'est nous qui avons commencé. Non, mais
c'est maintenant le nouveau running gag, tu vois. J'instaure plusieurs running gags. Voilà. J'allais trop pas.
Alors, il est en train de craquer à cause de la régie.
Ouais, je ne répéterai pas, mais la régie me troll, je n'en veux plus, genre, j'en ai trop pas. Il n'a pas dit une phrase depuis le début, à part pour donner une info pertinente à Hugo. Et là, vas-y, c'est bon, bref, clownesque. Non, moi, genre, vendredi, donc, comme je vous ai dit la semaine dernière, j'ai fait des side events, et avec les side events, j'ai gagné de l'argent. Du coup, comme j'ai gagné de l'argent, tu vois, bah...
ce serait dommage de pas le dépenser.
Genre, vraiment, comportement logique et base du comportement humain, me win money, me dépenser money. Et comme l'a si bien dit PDPU tout à l'heure, bah, il y avait des vendeurs. sauf que moi, contrairement à PDPU, en fait, genre, il me manque des cartes. je n'ai pas du tout tout dans le jeu. Du coup, j'étais en mode. Bon, genre, ah oui, petite anecdote, genre, 3 jours avant l'event, j'avais ouvert des boosters random comme ça de Bright Lights, et j'avais ouvert des Majestic pour Teclovoson et Singularity. Et du coup, j'étais en mode, Singularity et tout, Teclovoson, ouais, c'est pas un bon deck, mais c'est pas grave, Mécano, c'est stylé et tout. Et du coup, bah, j'ai acheté genre tout ce qu'il fallait pour Mécano, donc j'ai mis genre 150 balles devant les vendeurs et j'ai fait « Give me all of these ». Donc j'ai pick up un peu tout. J'ai acheté des artist proof mais en petite taille, genre taille carte à Azure Mizoa également. Mais ça, comme PDQ a très bien parlé tout à l'heure des artistes, je vais pas trop refaire de speech là-dessus. Mais j'étais très content parce que je suis, comme vous en fait, je trouve que ces illus sont très belles. Et puis, je suis très fan des Figment en Marvel et de ces illus-là. Je trouve que les illus de Light Illusionist sont parmi les plus jolis du jeu. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Alors ça, fast forward, c'était le dernier jour, mais ça fait partie des achats. Je me suis fait plaisir et je me suis acheté des trucs genre des High Octane et tout en Rainbow Foil, des Sing Below en Rainbow Foil, genre j'ai pimpé des petits trucs sympas. J'ai racheté genre Tectonic Plating et Rampart pour pouvoir être prêt pour Heavy Eaters, même si le set me hype pas énormément pour le moment. J'ai acheté plein de cartes, genre vraiment plein de cartes, parce que en fait mon raisonnement sur ce genre d'event, parce que j'avais fait un peu la même chose déjà à Lille et tout l'année dernière, c'est dans la plupart des cas les prix sont très similaires à ceux de Card Market. Y a beaucoup de stock et beaucoup de choix, tu vois directement les produits, donc tu peux vérifier l'état, etc. Et tu n'as pas de frais de port. Parce que par exemple, les High Octane, je les ai pris un petit peu plus cher que sur CM, si j'avais pris le premier prix. Sauf qu'en fait, j'ai pris les trois au même endroit sans avoir de frais de port. Sur CM, j'aurais eu trois boutiques différentes avec trois fois genre 5 ou 10 euros de frais de port selon d'où tu les prends. Et donc, ça serait revenu plus cher en fait. Et du coup, c'est aussi pour ça que sur ce genre d'event, surtout quand je sais que j'arbitre et que donc je vais pouvoir me faire des sous en vendant les promos d'arbitrage, les boîtes, etc., en général, j'en profite pour pick up pas mal de choses. Donc là, j'ai vraiment fait des grosses courses. Donc, très content là-dessus. J'ai pu avoir mes 3 sigils, comme je disais dans l'épisode de la semaine dernière, qui était un de mes gros objectifs du week-end aussi, en termes de cartes et d'obtention de cartes. J'ai eu ma Dash.io Rainbow Foil. Donc, je suis content parce que du coup, pour le moment, je n'ai pas forcément besoin d'en acheter une Cold Foil. Cela Rainbow est assez sympa. Qu'est-ce que j'ai obtenu aussi ? Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Après, c'est quelques Majestic, genre des Starstruck, des trucs comme ça, mais c'est pas hyper funky. C'est genre comme Otal, il m'en manquait si je veux jouer Bravo. Du coup, j'étais en mode, vous en avez, je vais les pick up parce que. Enfin, comme ça, c'est fait en fait.
Ouais, et c'est vrai que Starstruck, j'ai comme toi. Hein. J'étais en mode, bon, pas trop.
Ouais, ouais, non, mais c'est ça en fait. Genre, vous avez un brelan, je le prends. j'ai acheté et obtenu via ma compensation de Judge deux choses dont je suis très très content. Alors je les ai pas sous la main parce que elles sont autre part, mais j'ai eu du coup les sleeves œil d'Ophidia qui étaient les sleeves du tournoi. Et j'ai acheté un paquet de sleeves Heart of Fiendal, dont je suis extrêmement content parce que du coup, il m'en manque plus beaucoup pour avoir genre tous ceux, enfin tous les paquets de sleeves que je garde scellés. En fait, j'en garde un exemplaire.
C'est des sleeves d'arbitrage ou d'event ?
Ouais, d'event, d'arbitrage, ce genre de truc. Donc globalement, j'ai la plupart. Et du coup, j'en suis très content. Donc ça, c'était très cool. Et j'ai eu le tapis du Calling, qui est le Figment of Protection, qui est genre incroyablement beau.
Ouais, ça qui est
très... Et... j'ai acheté le tapis Adaptive Plating que je trouve super joli aussi, qui a le stamp en plus des Worlds, donc c'est trop cool parce que ça fait un bon souvenir aussi, et que j'ai pu faire signer par James White lors d'une petite interaction que je raconterai tout à l'heure, puisque je fast forward mais que pour les achats. Après je reviens dans le passé, dans le week-end.
Oui, c'est un truc que tu m'as dit où j'étais en mode alors peut-être Croissant va faire des moves intelligents, parce que t'as l'habitude d'acheter des decks, de revendre des decks, puis de racheter le même deck, puis de le revendre. Et là, tu m'as dit à un moment, à la lock, tard le soir, tu m'as dit, ouais. En vrai, je vais essayer de garder toutes les cartes des trois classes que j'aime vraiment, et genre pas les revendre tous les deux jours. Et
je vais essayer, je vais essayer.
Alors
essayer.
Peut-être.
Mais le problème,
300 n'aura pas besoin de racheter Azalea dès qu'il dit que Azalea la flemme. Et du
alors Azalea, c'est pas le bon exemple parce que ça fait déjà un moment que j'ai revendu genre mes codex et tout. Et si je veux rejouer Azalea, faut que je rachète genre 200 balles de cartes. Mais
genre bravo et canon.
Ce n'est pas la question. Ouais. Bravo, j'ai racheté aussi. Genre, il fallait que j'achète. Mais j'avais jamais acheté les Starstruck, donc bravo, c'est un peu différent. Non, c'est surtout genre oui, Cano, je garde. Illusionniste, je garde. Et Mécano, je garde. Là, c'est les trois vraiment principales. Donc ça, c'est pour l'obtention. Donc vraiment, genre, je me suis fait super plaisir, super cool. J'ai acheté de quoi jouer plein de decks, trop bien. J'ai pimpé des trucs, genre, vraiment trop bien. J'ai fait signer mon Cano Marvel par James White aussi.
Stylé.
Je suis très content. La carte n'a donc plus aucune valeur, ou presque, pour les gens qui font de la collection, à part s'ils kiffent la signature de James White. Mais je m'en fous, parce que je n'ai aucunement l'intention de vendre un jour cette carte, puisque c'est Cano, oui. C'est mon bébé. Voilà.
Et Cano sera jamais LL, donc tout va bien.
Tu m'as rappelé qu'il était LL en Blitz, et voilà, maintenant on va déprimer pendant l'épisode.
La dépression.
Oh non, nique.
Franchement, pour les gens qui écoutent juste...
Vraiment, genre...
Pour les gens qui écoutent juste, essayez de regarder la vidéo juste pour ce moment-là.
Mais
genre, non, vraiment...
mais c'est pas gentil, en fait.
J'y ai même pas pensé.
Fait un jouer.
Mais non, mais genre, j'ai pas pu le jouer une dernière fois. Je bosse jeudi soir, là, de la semaine passée, donc je vais pas pouvoir le jouer. Genre vraiment, c'est pas gentil, je vais ranger au placard le canon en blitz, c'est trop le seum. Bref, irrelevant pour la vidéo et pour l'épisode là. Tu vois Hugo, tu dis, il va encore parler pendant 30 minutes, mais c'est toi, tu m'emmènes sur des chemins...
J'ai juste dit que ça, le Cano allait jamais LL en construit.
C'est fourbe de ta part. Bref, c'était le moment animation et tout. Ouais, ouais.
ouais.
Plus sérieusement, du coup, donc j'ai acheté plein de cartes. Super cool. Deux autres choses principales sur l'expérience du week-end globalement. La première, comme à chaque fois, j'étais dans un Airbnb avec des gens trop cool.
Moi compris.
Et, Hugo compris. Tous les soirs ou presque, je suis allé boire avec d'autres gens trop cool qui n'étaient pas forcément que des gens du Airbnb. Et ces gens-là, ils écoutent. Hugo, il nous a abandonné tous les soirs parce qu'il était trop fatigué. Parce que en fait genre, pour pouvoir jouer au maximum de ses capacités, il devait réfléchir de fou. Parce que, genre, comme il l'a dit la semaine dernière, il a quand même fait des plutôt bons résultats sur le week-end. Et du coup, le soir, il était fatigué et il fallait qu'il se repose pour le lendemain pour refaire des bons résultats. Du coup, à chaque fois, on allait boire sans lui. C'était un peu triste, mais bon, on espère qu'à Amsterdam, il fera des résultats de merde, comme ça, il pourra venir avec nous.
Tu enrobes avec beaucoup de panache le fait que quand Gabi me demandait « Viens, on va boire », je faisais « En vrai, flemme
». Non, mais voilà, on est là. En vrai, donc les gens avec qui je suis allé boire des verres tous les soirs se reconnaîtront. Il y avait des gens du Airbnb et d'autres gens, super cool. Globalement, la plupart, ou même à chaque fois, je crois tous, ou presque, des Parisiens, et enfin, tous des gens que j'adore et super, super cool. Et Enfin, genre, voilà, rien à dire. Donc, trop bien.
Sur le Discord France, ultra sus là, vraiment 4h du 4h du bar en train de faire la fermeture du bar là.
Moi, j'étais pas dans ce groupe là. J'ai failli être. Non, j'ai failli être. J'aurais dû y être. Et une voix sage et raisonnable m'a rappelé à l'ordre. Je vais expliquer l'interaction. C'était assez drôle. En fait, donc ouais, donc déjà de manière plus générale, super cool parce qu'en plus, comme on était à Barcelone, on a bu de la sangria, on a mangé des tapas. Enfin, du coup, on était genre, c'était pas juste boire de la bière ou du pastis comme on aurait fait en France, mais c'était vraiment genre en plus des trucs un peu plus locaux et tout. Donc vraiment super bonne expérience. Et ça, c'est un des trucs que j'adore dans ces events comme ça à l'international, c'est que même si c'est avec des gens que tu connais et que c'est pas forcément avec des gens étrangers, et que tu, enfin, toi, tu vas boire avec les mêmes personnes avec qui tu pourrais y aller en France, ça reste quand même super cool parce que c'est dans un autre contexte, c'est genre à un autre endroit, etc. Donc, c'est vraiment une ambiance trop, trop cool. Et ça, genre, je trouve que ça ajoute vraiment ce que tu disais, Pidipu, tu vois, genre, moi, j'ai pas forcément envie d'aller à ces events juste pour bosser parce que je suis arbitre ou juste pour jouer, tu vois. J'ai envie que ce soit aussi un truc où j'y vais avec des gens que j'apprécie, où tu vois les gens que t'apprécies, genre, t'es dans un Airbnb, t'es pas solo dans une chambre d'hôtel et tout. Et du coup, tout ça, ça participe au fait que le week-end se passe super bien et soit un moment super cool, en fait. Du coup, pour la petite anecdote, c'était samedi soir. Donc, samedi soir, je sortais d'une journée d'arbitrage. Je vais faire des énormes parenthèses dans cette anecdote parce que je me rends compte que je n'ai pas encore parlé de l'arbitrage. Du coup, samedi, j'arbitre. Premier jour d'arbitrage, j'arbitre du coup le jour 2 des Worlds. Je suis sur l'équipe d'Eggcheck et c'est trop cool, j'adore. Vraiment, genre, j'aime trop. J'avais demandé à y être, on m'a mis dessus, j'étais trop content. En plus de ça, mais ça c'est plus, bon, la personne ne regardera jamais la vidéo, mais j'étais super content parce que quand j'ai vu le planning, dans la même team que moi, donc sur les deck check aussi, il y a une arbitre qui s'appelle Raquel, qui est adorable, qui est genre super gentille et qui était mon team lead à Madrid, donc le premier event international que j'ai fait, et qui fait grandement partie de comment j'ai pu m'améliorer en tant qu'arbitre et comment j'ai pu genre devenir un meilleur arbitre après Madrid, etc. Et genre qui m'a vraiment donné envie de continuer à arbitrer. Et du coup, à chaque fois que je la vois, je suis trop content de la voir. Je la remercie et je suis trop content d'être dans ces équipes sur des events parce que vraiment, super judge, adorable. Du coup, donc, je suis sur les deck checks. Les deck checks, c'est trop cool. Si vous avez déjà judge et que vous avez déjà fait des deck checks, vous savez. Si vous vous êtes déjà fait deck check, bah tant pis pour vous, c'est moins fun quand t'es du côté joueur, mais c'est pas grave. Nous, on adore, c'est trop marrant. On arrive et tout, tel des ninjas comme ça. Et puis en fait, on passe dans les rangs parce que on doit pas genre dire à quelle table on va faire un deck check parce que sinon si les gens avaient l'intention de tricher, bah juste ils trichent pas. Et du coup on doit attendre qu'ils aient présenté leur deck et comme ça s'ils ont triché c'est le meilleur moment où on peut les avoir. Sauf que contrairement à des jeux comme genre Magic ou quoi ou Yu-Gi-Oh où ça se fait hyper rapidement parce que genre tu dis tu commences, oui je commence, hop 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 on shuffle et hop on commence la partie. Là en fait il y a du sideboard avant le début de la partie puisqu'on est en BO1. Et du coup, genre des fois le process il prend genre 5 minutes. Donc on passe 5 minutes à errer dans les rangs comme ça, à genre se faire appeler par d'autres tables en mode « Oui, Judge, je voudrais aller aux toilettes. » Et nous, on est en mode « Oui, alors attends deux secondes, faut que je trouve quelqu'un d'autre parce que moi, je suis occupé et tout. Mais il faut pas que je fasse genre que je suis occupé. » Genre, incroyable. C'est des petites minutes de bonheur. C'est vraiment, c'est en fait, genre, ça paraît con comme ça, mais c'est genre, c'est un des trucs que j'aime beaucoup dans l'arbitrage parce que du coup, t'es en mode « Ok, genre, faut que je fasse mon taf, mais genre, faut que je fasse mon taf là aussi. Qui est-ce que je peux demander ?» Et en fait, c'est là aussi où tu vois que bah sur un event, t'as énormément de judges et qu'il faut beaucoup de judges pour que ça se passe bien et qu'on ait une équipe sur genre vraiment, tu appelles quelqu'un et tu fais « Oui, j'ai besoin de toi, tu peux te mettre là » et la personne va pas le questionner en fait. Genre la personne, elle va être en mode « Ok, bah je me mets là, genre t'as besoin, je me mets là. » Et donc, enfin, c'est aussi dans ces moments-là que tu vois l'entente et la confiance que t'as dans les équipes de judges et c'est trop cool. Et donc du coup, on se camoufle tel des ninjas comme ça et dès qu'on voit que la table qu'on a l'intention de deck check a présenté ses decks pour commencer la partie, on interrompt comme ça, genre, et on fait hop, 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 hop. Et on prend les decks et on va deck check et on vérifie tout et tout. Et puis après, s'il n'y a aucun problème, on rapporte. Et puis s'il y a un problème, on rapporte quand même, mais on prend le joueur ou la joueuse à part et on explique le problème et on met éventuellement une sanction ou plus s'il y a des investigations, bref. Moi, je crois que sur les deck check que j'ai fait, j'ai pas eu de problème. Et si j'en avais eu, je le dirais pas. Donc, considérez que j'en ai pas eu. Et si j'en ai eu, bah, vous le saurez pas. Mais je crois que j'en ai pas eu. Du coup, donc la journée se passe parce que, en gros, il faut savoir aussi pour les gens qui ont jamais fait d'arbitrage et que ça peut intéresser. Parce que je vois en plus en ce moment pas mal de gens dans le channel arbitre sur le Discord France s'intéresser un peu, vouloir passer leur niveau 1. Donc j'en profite pour donner un petit peu d'infos aussi. Quand on est sur l'équipe DeckCheck, en fait, ça nous prend en gros la première quinzaine de minutes du round environ. Et du coup, le reste du temps, bah, on ne se tourne pas les pouces à rien faire en attendant la round suivante pour un autre deck check. On redevient ce qu'on appelle des floor judges. Et du coup, bah, on se remet en fait parmi les tables du tournoi et on peut répondre à nouveau aux calls qu'il peut y avoir si des gens nous appellent ou font appel à un judge pour des questions de règles, des problématiques à une table, etc. Enfin, tout ce qu'on peut avoir lors d'un tournoi et lors d'une partie. Du coup, donc, à chaque fois, on a une quarantaine de minutes où on redevient des judges. Et puis après vers la fin de la round t'as les gens de l'équipe end of round procédure qui viennent, ils ont la petite appli dont PDPU a parlé la semaine dernière, la Purple Fox, qui est incroyable, et ils nous font regarde, il y a ces tables là qui sont marquées comme problématiques ou comme jouants mais genre sans personne qui vérifie, note-les et genre va dessus et va vérifier, parce qu'en fait comme ça permet notamment qu'on puisse vérifier quand la partie est bel et bien finie, que s'il y a une extension de temps, on puisse la communiquer aux joueurs. Enfin, ils ont déjà l'information, mais qu'on puisse genre, leur redonner le nouveau chrono, parce que du coup, c'est plus forcément bien affiché à la clock, etc. Et surtout, ça permet aussi, quand des gens arrivent vers le time, qu'on s'assure que dès qu'ils ont fini la partie, ils envoient leurs résultats. Et comme ça permet de fluidifier au maximum le temps à la fin des rounds et qu'il se passe le moins de temps possible en fait, pour la récupération des scores et pour le lancement de la round suivante, donc avec le moins de battements possible, parce que si on genre les gens en fait juste ils finissent, ils discutent, ils oublient et après on doit les rechercher dans la salle, c'est infernal, impossible. Donc c'est beaucoup mieux si on a des judges qui peuvent y aller. Donc voilà un peu le process que j'ai suivi à chaque round, donc c'était cool. Et du coup vient le soir, le soir je vais comme les autres soirs en fait, enfin comme le vendredi, je vais boire un verre ou des verres avec notamment une personne qui s'appelle Fred, autrement connu sous le nom de Lugmi, autrement connu maintenant pour moi dans mon esprit et dans mon cœur sous le nom de Lugmi le sage ou Lugmi le raisonnable. Oui, je sais, ça vous étonne. Ah ouais. Lugmi a été le sage et le raisonnable. En fait, donc on était avec des gens, tu vois, et genre on boit, on mange, c'est trop bien et tout. Et un peu avant minuit, le patron du bar qui nous avait offert des petits trucs à manger et tout parce que bah on avait pas mal consommé, que voilà on était gentils, il nous fait par contre si les flics passent et que j'ai pas fermé la terrasse après minuit, c'est la merde, donc je suis désolé mais je vais vous demander de genre d'évacuer et d'aller autre part. Et donc nous on fait ok. Et moi genre je passe vite aux toilettes avant que tu fermes parce que la bière voilà. Donc je passe aux toilettes. Je ressors et là je vois le groupe qui s'éloigne un petit peu pour trouver un autre bar, et je vois Fred qui attend et là je dis merci Fred de m'attendre et tout, tu vois, et là Fred commence à partir dans l'autre sens et là je fais tu fais quoi, mais vraiment d'une voix très très bête
naïve, et naturelle,
tu vois.
Genre,
très naïve, voilà, très naïve, genre mais où vas-tu, tu vois. Et là Fred il me fait je rentre, pourquoi, tu voulais aller avec eux? Et là je fais je sais pas, ouais. Alors je rappelle qu'il est minuit, mon shift le lendemain commençait à 8h20 et là Fred
ouais, il me dit c'est ça qui est,
et je me fais instantanément daronnette puisque Fred me dit tu arrêtes tes conneries, demain tu arbitres le top 8 à 8h, tu viens, tu rentres, tu dors. Et j'ai fait c'est vrai, t'as raison.
Remarque pertinente, quoi.
Ton argumentaire fait sens, je vais te suivre. Donc, j'ai suivi Fred. Et du coup, je suis allé dormir, j'ai fait ma petite nuit de sommeil et tout. On est reparti le matin parce que lui, par contre, je crois qu'il allait plus tard, je sais plus.
Il est pas arbitre de niveau 2 pour rien, quand même, tu vois. Genre, bon.
Ouais. Après, je suis arbitre de niveau 2 aussi, mais.
Il est là pour encadrer les bouffons sous sa responsabilité, en fait.
Exactement. Je n'étais absolument pas sous sa responsabilité du week-end. Si. Ouais, non. Si.
Non.
Si. Il y a un moment. Si. À la fin. Genre, allez, un moment. Et il s'en est bien vanté, d'ailleurs. Mais bref. Et donc, j'arrive. Et effectivement, comme l'a dit Otad tout à l'heure, j'arbitre. Enfin, je fais partie de l'équipe qui arbitre le top 8 des Worlds. Alors, il faut savoir deux petites infos. Premièrement, on était le head judge, le support judge et trois floor judge, parce que
On était 5, donc autant, parce que le head judge, donc Alfonso, pensait au départ qu'on allait avoir au moins 2 matchs, voire les 4 en simultané. Et que donc, on aurait besoin d'un arbitre à chaque table, d'où le nombre. En fait, comme les matchs étaient tous streamés, ce qui, en vrai, est logique, mais tu vois, si ce n'est pas communiqué, on n'y pense pas forcément et tu prévois toujours au plus pour l'organisation. En fait, les games étant streamés, elles ont été jouées une par une à la table de stream. Et du coup, on avait besoin que d'un arbitre en même temps à chaque round pour vérifier ce qui se passait sur la table et pour intervenir rapidement en cas de besoin. Du coup, moi, j'ai été sur le premier quart de finale et le quatrième quart. Et en fait, après ça, du coup, je suis allé faire autre chose parce que y avait plus besoin de nous autre part. Et en fait, il n'y avait pas besoin que les trois floor judges restent. Il n'y avait besoin que d'un seul, en fait. Et du coup, moi et un des autres arbitres, on s'est proposé en mode oui, on peut aller faire autre chose. S'il y a plus besoin de nous autre part, c'est cool d'arbitrer le top 8, mais je ne suis pas là pour j'ai arbitré le top 8, je ne veux pas partir. Je suis là pour arbitrer là où j'ai besoin d'arbitrer et où on a besoin de moi et pour aider. Et du coup, je suis notamment allé aider le plus gros event de Flesh and Blood et qui est le Seal de Sagrada du dimanche après-midi, qui a fait a priori, je crois, 930 ou 950 personnes.
C'est ça, 950. En tout cas, plus de 900.
Et qui, du coup, on peut comprendre pourquoi il y avait besoin de tous les arbitres possibles. C'était une dinguerie à lancer. C'était
un enfer à lancer. C'est pas juste tu fais un sitting, ils se posent, tu checks si les gens sont là et puis c'est réglé. Non. Là, c'était t'installes les gens, tu leur distribues 3 boosters à chacun et
en fait, c'est l'apocalypse. Puis tu distribues les promos. Puis tu distribues les promos en faisant attention que tu distribues bien une à chacun. Enfin bref, un enfer. Un enfer, non, mais.
Ouais, ça s'est bien passé.
Compliqué. Ça s'est bien passé, mais compliqué et un peu prenant. Donc on avait besoin d'être beaucoup, surtout parce qu'il faut que ce soit fait rapidement. Et du coup, faut que tu aies vraiment beaucoup d'arbitres pour distribuer à tout le monde en même temps et pas y passer 15 minutes. Mais du coup, pour revenir un tout petit peu sur le top 8, puisque c'était une de mes expériences hyper intéressantes du week-end, comme a dit Pipu tout à l'heure, en fait, comme je l'ai déjà dit, j'ai pas fait grand-chose. Parce que, en fait, les joueurs et les joueuses à ce niveau-là sont à un niveau incroyable. Et comme en plus on est en stream et que du coup on leur fait le rappel au début de la game, utilisez les dés, communiquez bien tout avec vos adversaires, etc. En fait, du coup, nous, on n'a pas besoin d'intervenir parce que... Enfin, on n'a pas besoin. On pourrait avoir besoin, mais moi, je n'ai pas eu besoin parce qu'en fait, ils connaissent les règles, ils savent ce qu'ils ont le droit de faire ou pas faire, donc il n'y a pas d'erreur de play d'action illégale. Qu'il y a très peu de questions sur comment se passent les interactions parce qu'ils les connaissent. Et du coup, en fait, tu n'as pas vraiment de questions et il y a... très peu de moments, voire pas du tout, où tu as besoin d'intervenir pour un truc qui s'est mal passé ou qui a été loupé par les deux joueurs, parce que c'est rare que les deux joueurs à ce niveau-là loupent un truc qui aurait dû être vu, quoi. Donc, donc quand même hyper intense, parce que tu dois pas quitter la table des yeux, etc. Enfin, c'est quand même une expérience hyper particulière, hyper instructive et super sympa. Mais du coup, effectivement, factuellement, j'ai pas eu grand chose à faire. Donc c'était un peu paradoxal, mais c'était quand même très cool. J'ai vu, enfin tu vois, pour montrer à quel point les gens communiquent hyper bien, j'ai vu Yuki à un moment poser une carte de sa main face visible et un équipement en bloc et clairement communiquer à son adversaire: je n'ai pas fini mes blocs, je réfléchis encore. Alors même qu'il y avait une carte qui avait été révélée, enfin, tu vois, que du coup, elle avait potentiellement donné une info à son adversaire et tout. Et enfin, en fait, quand tu as ce niveau de communication à la table, ça enlève une grande partie des problèmes que tu pourrais avoir, en tant qu'arbitre et sur lesquels tu devrais intervenir. Et du coup, ça lise beaucoup les games et en fait, il y a pas vraiment de conflit à résoudre ou quoi que ce soit puisque tout est fait dans les règles de l'art. Donc quand même une expérience de fou. J'étais quand même super content, c'était quand même très très cool. Et puis après, je suis passé sur le scellé et puis après j'ai fini ma journée, je suis allé voir James White parce que James White, incroyable vraiment, mais comme à chaque gros event où il est là, prend du temps à la fin du week-end pour parler avec les arbitres qui le souhaitent. Il prend 5 petites minutes avec chacun où il nous parle en individuel. Si on veut faire signer des choses, il signe des choses. Enfin, vraiment super cool. Donc vraiment, trop trop bien. J'ai essayé de lui glisser que j'étais français et que j'avais un podcast. Je ne sais pas à quel point il aura relevé l'information, mais j'ai essayé de faire mon job. J'ai essayé de glisser le truc.
At least you tried.
Voilà, c'est ça. C'est vraiment genre at least I tried. Voilà. Et du coup, après le lundi, puisque du coup je rentrais le lundi soir, le lundi, je passais quasiment l'intégralité de ma journée au Corgi Café avec des gens de Tour Zéro. Tels que Otal et Nightcrash, ainsi que 2-3 autres personnes qui étaient des gens qui étaient avec eux dans leur Airbnb. Et pareil, super cool, vraiment genre... En fait, post-even, du coup, t'as pu à réfléchir au game, à l'arbitrage, à machin, donc t'es juste chill, tu parles un peu de ce qui s'est passé, tu parles un peu de ce qui va se passer après et tout, et tu parles d'autres choses. Et en fait, c'était juste très cool. Du coup, j'ai rencontré des gens que je connaissais pas qui étaient très sympas aussi. Et vraiment juste genre juste bonne vibe, bonne ambiance, et ça participe à ce que je disais du fait que c'est aussi avec qui tu passes les moments hors partie de ces événements qui font que ton week-end est réussi ou pas. Et et du coup moi, enfin, vraiment super content de mon week-end overall. Y a juste deux trucs où mon point de comparaison, c'est le Pro Tour Lille, parce que c'était très similaire en termes de niveau, du fait que j'arbitrais, du fait que j'étais avec à peu près les mêmes personnes dans le Airbnb et tout. Et par rapport à Lille, il y a deux trucs que j'ai trouvé moins bien, mais c'est des trucs, moi, personnellement, en fait, c'est pas du tout lié à l'événement ou à l'organisation, qui, elle, était très bien. Premièrement, c'est que je me suis trouvé un petit peu moins sûr de moi et un petit peu plus hésitant sur certains trucs d'arbitrage. Notamment parce que à Lille, j'avais pas été sur le Pro Tour, j'avais été beaucoup plus sur le calling et sur des side events. Et je pense que là, le fait que c'était les Worlds, surtout le jour 2 où j'ai répondu à pas mal de calls, ça m'a un peu déstabilisé entre gros guillemets. Du coup, je voulais vraiment tout double checker et du coup, je remettais un peu des trucs en cause alors que je savais, mais. Alors, c'est bien parce que du coup, je recheckais avec un arbitre ou avec mes sources les informations. Donc, c'est toujours mieux parce que comme ça, j'étais sûr de donner les bons rulings. Mais, mais du coup, moi, mon expérience d'arbitrage, je me suis senti un petit peu moins bon et un petit peu moins à l'aise. Et le deuxième truc, c'est que contrairement à Lille où j'avais pu trouver le temps et juste le... Alors, c'est pas l'audace le terme, les timings, on va dire, pour aborder des gens. Parce qu'à Lille, j'avais pu parler avec tous les commentateurs de l'équipe, j'avais pu parler avec Matt Rogers, j'avais pu parler avec Fino Black, j'avais pu parler avec les gens d'Arsenal Pass, de Team Covenant, enfin, j'avais pu parler avec plein de gens, et c'était trop, trop cool. Et là, en fait, j'ai vu passer plein de gens avec qui j'aurais eu envie de discuter un peu, et à chaque fois, j'étais en mode « Oui, mais là, il sort d'une Game Day Worlds. Oui, mais là, il va jouer son Round Day Worlds. Oui, mais là, il va commenter une Game Day Worlds. Oui, mais... » Et du coup, en fait, à chaque fois, pareil, le fait que c'était les Worlds, un peu, je pense que ça m'a un peu... et du coup, il y avait un côté où, genre, j'étais en mode, ils ont l'air trop occupés, j'ai pas envie de les déranger. Et moi, après, il y a des moments où moi, j'étais occupé aussi. Et du coup, c'est mon regret aussi un peu de ce week-end, c'est que, en fait, j'ai parlé à très peu de gens au final. J'ai pu discuter avec vraiment peu de personnes. En dehors des gens avec qui j'étais déjà là et des Français qu'on a pu croiser, mais ça, comme tu disais, Otal, c'est quelque chose auquel tu t'attends plus et où t'as pas besoin d'être à Barcelone lors des Worlds pour le faire, tu vois. Alors que des gens comme Flay, comme Aiden Dale, comme Matt Rogers, je les reverrai pas avant je ne sais quand. Et du coup, j'ai un peu de frustration de ce point de vue-là, sur le côté où j'aurais bien aimé trouver le temps et les timings pour interagir un peu plus avec tous ces gens-là qui sont des gens que j'admire beaucoup pour leur niveau de jeu ou leur travail pour la communauté, parce que c'est des créateurs de contenu. Et du coup, je suis un peu déçu de ce point de vue-là. Mais ça n'entache que très peu l'expérience incroyable qui était le week-end, qui a été rendu incroyable parce que tous les judges sont super et bah, j'adore travailler avec tous les judges qu'on a, avec qui à chaque fois ça se passe super bien et qui je suis très content. Parce que l'équipe de Tournament Center est incroyable aussi et que du coup, enfin pareil, c'est toujours hyper fluide et hyper bien quand on travaille avec eux parce que bah, tu as une question, tu vas les voir et genre tu as une réponse et ils te prennent pas de haut et rien du tout et du coup, pareil, trop cool. J'ai encore une fois eu l'occasion de voir et de discuter un peu avec James White, que j'ai vu des gens que j'avais pas vu depuis un moment ou des gens genre d'autres villes en France qu'on a, avec qui on discute beaucoup sur Discord mais qu'on n'a pas forcément beaucoup l'occasion de voir. Donc vraiment, encore une fois, un event de mon point de vue pour le jeu et moi à titre personnel, super réussi, vraiment super cool. Hâte du prochain gros truc qui pour moi sera probablement le Pro Tour Amsterdam, mais vraiment ouais, super cool et genre vraiment presque que du positif à ressortir de cet event et à garder pour la suite. Voilà, c'était les 30 minutes croissants.
Mais ouais. C'est vrai que perso, moi, après avoir fait Madrid et avoir fait le... du coup, c'était le Pro Tour Lille. Cet event a vraiment été celui que j'ai préféré personnellement. Genre que ce soit sur tous les points, en fait. Le lieu lui-même, on en a parlé, je ne sais plus si on en avait parlé en live ou si on avait parlé hors du live, mais il était beaucoup moins bruyant que qu'avait pu être Lille. Je ne savais plus si c'était en live ou hors live qu'on en avait parlé. Il y avait plein de... En fait, c'est plein de petits détails en fait, qui se sont cumulés comme ça, qui font que pour moi, cet event a été vraiment genre, le meilleur que j'ai pu faire de Fab. Et c'est vrai que c'est très motivant de te dire « Vas-y, je veux continuer à en faire, on va faire d'autres events. » Alors, les gens étaient trop cool. Enfin, moi, j'ai adoré tous les gens que j'ai vus. J'ai adoré vous discuter avec vous, discuter avec les gens du logement aussi. On se marrait bien, on s'éclatait bien. C'est super important, ça, quand tu fais un event, de bien choisir les gens avec qui t'es dans le logement.
Et en vrai, du coup, moi, le truc le plus important pour moi à dire, c'est que les personnes qui sont un peu frileuses à l'idée de passer le pas pour aller à des événements de cette taille-là, en fait, n'hésitez pas à demander sur le Discord France, n'hésitez pas à vous rapprocher des personnes qui vous entourent. Et en fait, un événement comme ça, c'est pas juste genre aller jouer aux cartes dans un autre pays. En fait, c'est vachement plus. C'est plus d'occasions de voir des gens, de parler avec ce qui fait le jeu et qui n'est pas juste la boutique locale où on est une fois par semaine et tout. Et ça, en fait, si le jeu... C'est le cas avec moi, tu vois, le jeu me plaît suffisamment et j'ai suffisamment envie de m'investir dedans. Sinon, je ne ferais pas un podcast, en fait. suffisamment envie de m'investir dedans pour, justement faire ce pas d'aller voir d'autres gens, d'aller à des events et genre, de sortir de ma zone de confort. De toute façon, c'est-à-dire que pour moi, sortir de ma zone de confort, ça consiste à me lever une heure plus tard, déjà. Donc, aller carrément dans un autre pays, c'était... Bon, voilà. J'étais bien fatigué en revenant, mais c'est cool, faites-le, voilà.
Ouais, mais tu vois, pour même ajouter là-dessus, moi, tu vois, quand en boutique, on a des gens qui nous disent « Ouais, parlez-moi un peu de Flesh and Blood, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de machin et tout. » Un des premiers trucs que je leur dis, alors je conseille un peu sur les decks et tout ça, je parle quand même un petit peu du jeu et du fonctionnement. Si la personne a le temps et moi aussi, je fais une initiation. Parce qu'il y a évidemment l'aspect jeu et c'est important pour s'investir sur un jeu et jouer et aller en événement comme ça, d'aimer le jeu de cartes auquel vous jouez, bien sûr. Mais un des premiers trucs que je leur dis, c'est venez à un événement en boutique. Pourquoi ? Parce que même si vous faites 0-3, 0-4, 0-5, en fait, vous allez voir les gens de la communauté. Et du coup, vous allez voir que, de mon point de vue, c'est des gens super cool. On a une communauté super cool, c'est des gens qui vont être prêts à vous aider, qui vont être prêts à vous donner des conseils, à vous prêter des cartes, à vous aider à vous améliorer et à rentrer dans le jeu. Mais surtout, en fait, si vous n'êtes pas du même avec moi et que nouveau joueur vient et trouve que la communauté est dégueulasse, achète pas de deuxième deck, achète pas de display, achète rien. Parce que, en fait, même si tu aimes bien le jeu, tu vas pas venir jouer en boutique si la commune est dégueulasse. Et du coup, ça va pas te faire rester sur le jeu. Et du coup, il faut évidemment que le jeu soit bon, mais si jamais vous n'accrochez pas avec la communauté locale, vous n'allez pas venir faire de tournois et d'événements parce que vous n'aurez pas envie de voir ces gens. Et le truc, c'est que ces événements, comme les Worlds à Barcelone, c'est l'étape d'après, c'est l'étape au-dessus et c'est vraiment l'étape finale de ce côté où toutes les communautés sympas se rassemblent pour faire la grosse commu sympa de Flesh and Blood. Et en fait, bah, comme on dit depuis le début de cet épisode, ce genre de week-end, et même jouer au jeu de manière générale, c'est pas juste un jeu où vous jouez comme ça sur votre ordi, tout seul dans votre coin, ou tout seul à votre table. C'est un jeu où vous rencontrez des gens, où vous découvrez des nouvelles personnes, où vous pouvez voyager, où vous pouvez aller dans d'autres villes, dans d'autres pays. Et ça, c'est quelque chose qui passe aussi par le fait d'apprécier la communauté et les gens que vous rencontrez. Et bah, le meilleur moyen de savoir si ça vous plaît et si c'est pour vous un vrai bon loisir et que vous avez envie de le refaire, c'est d'essayer une première fois. Donc, comme dit Hugo, en fait, si vous hésitez à passer le pas à venir sur ce genre d'événement, bah, arrêtez d'hésiter, faites-le, venez. Et en fait, vous allez voir. Et soit vous allez être conquis comme on l'est parce que la commu est super, parce que les gens de LSS sont proches de leur commu, parce que le jeu est trop cool, parce que les événements sont bien organisés et incroyables. Et vous allez dire, mais pourquoi j'ai attendu autant? Vite, le suivant, je veux le refaire. Soit vous allez dire, ah bah non, en fait, c'est de la merde, genre j'ai détesté. Et là, bah, vous pourrez soit réessayer un autre pour voir si c'était vraiment genre le timing, la ville, ou sinon vous pourrez vous dire, bah, ça sert à rien que je m'investisse plus dans le jeu parce qu'en fait, j'ai pas envie de participer à tout ça. Et au moins, vous serez fixé. Parce que pour moi, c'est ça le vrai but aussi des jeux de cartes. C'est pas juste de jouer dans votre coin avec votre ami, ou c'est pas juste même d'aller en local une fois par semaine et de jouer une fois par semaine, mais c'est aussi d'avoir l'opportunité de voyager, d'aller rencontrer d'autres gens, d'aller découvrir d'autres villes grâce à ce genre d'événement. Et si c'est un truc où vous vous rendez compte que vous n'avez pas envie de le faire avec les gens qu'il y a sur ce jeu, bah honnêtement, peut-être essayer de trouver un autre jeu en fait. Mais vous ne le saurez pas si vous n'essayez pas.
Donc c'est, quoi la... c'est quoi déjà la phrase de LSS sur,
ah oui, putain, c'est... Je l'ai tweeté en plus.
C'est pas genre play the game, see the world, un truc comme
Non. Non, ça, c'est les Polonais. En gros, c'est.
Il y a Emilien aussi. Il y a Emilien aussi qui est à fond dans ce truc-là. Genre...
Peut-être. Mais en gros, la devise de LSS, c'est. Attends, c'est quoi? C'est. Alors, j'ai plus le terme en anglais, mais en gros, c'est rassembler les gens dans la chair et le sang, en flesh and blood, donc en physique. Through the common language of something and playing great games. Un truc du genre.
Oui, je me rappelle. En gros, c'est rassembler les gens dans le bon mood et dans le fait de jouer à un jeu cool. Je résume très largement, mais c'est l'esprit et c'est un peu ce qu'on dit dans cet épisode, quoi. Le but du jeu, c'est quand même genre... Après, je vais jamais juger quelqu'un qui me dit en vrai, moi, j'ai envie de rester dans ma commune locale. Chacun apprécie le jeu à sa façon, ça, c'est évident. Mais...
Attends, je pense que ouais, Knight a dû me l'envoyer puisque j'ai un MP, mais je l'ai retrouvé sur mon Twitter parce que je l'avais tweeté. C'est je crois qu'il m'a juste renvoyé mon tweet en fait vu la formulation. C'est to create a game that brings people together in the flesh and blood through the common language of playing great games.
Ouais, bah,
et du coup,
ouais,
en fait, c'est ça. C'est de jouer à un très bon jeu et de faire des bonnes parties parce que il faut qu'il y ait cette base là, sinon genre. Bah, c'est juste pas intéressant, mais il faut aussi en fait que ça rassemble des gens et que vous rencontriez des gens parce que c'est pas juste un loisir solo en fait, et c'est un truc vraiment qui peut devenir vraiment un loisir social et tout, des rencontres, etc. Même pour des gens comme Hugo qui peuvent avoir plus de mal. Non, mais c'est vrai, tu vois, c'est vrai, justement, il le dit lui-même, tu vois, je dis pas du tout ça parce que ça pourrait être pris comme une critique ou une méchanceté, absolument pas. C'est vraiment, justement, il le dit lui-même qu'il peut avoir du mal avec le fait de rencontrer des gens, d'aller vers les gens, et le fait que, via les jeux de cartes, il puisse le faire ou qu'il arrive un peu plus facilement à le faire sur ce genre d'événement, c'est trop cool, tu vois. Et ça montre bien que tout le monde est le bienvenu ou la bienvenue et qu'on peut vraiment faire des rencontres super.
C'est vrai.
Moi, je suis tout à fait d'accord.
Est-ce qu'on conclurait pas là-dessus?
C'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est une très bonne fin d'épisode, ça, hein, les amis.
Ouais. Bah, c'était super. Voilà.
Bah, je voulais dire merci tout le monde de nous suivre encore une fois. Nous, ça nous fait plaisir de discuter. Comme vous voulez voir, on a vraiment adoré On a adoré cet event, on remercie tout le monde d'avoir de nous soutenir, de venir. On ne peut que encourager les gens à faire comme nous et profiter de ce genre d'événement parce que c'est grâce à ça que le jeu existe et que bah du coup tout existe autour. Donc merci tout le monde et à la semaine prochaine. Ciao à tout le monde.
Salut.